Pendant cette première phase de déconfinement, France Culture vous propose de réentendre un certain nombre de bonnes choses. L'émission qui va suivre a été diffusée initialement le 9 septembre 2018. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission qui, jusqu'à 12h30, vous propose un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Pierre Hiverna, directeur de la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale, qui est notre partenaire chaque semaine. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Chaque dimanche en fin d'émission à 12h25, vous nous proposez la chronique La cerise sur le gâteau. Aujourd'hui,
eh bien, je voulais vous parler de Michel Serres.
Eh bien, ce sera tout à l'heure, aux alentours de 12h25. Bonjour Stéphanie Villeneuve.
Bonjour Caroline.
C'est vous, cette semaine, qui nous proposez la madeleine de, soit le souvenir gustatif, plutôt émotionnel en général, d'une personnalité aujourd'hui.
Et oui, du sociétaire de la Comédie Française, Denis Podalydès.
À tout à l'heure, la madeleine de, ça sera à 12h15. Notre plat du jour, c'est ce fruit plutôt rond, plutôt rouge, que l'on mange normalement plutôt l'été, dont il existe quelques 36 000 espèces qui répondent au doux nom de Roma, cœur de bœuf, Saint-Pierre, noir de Crimée ou encore ananas. Bien entendu, nous allons parler de la tomate.
Entrez. Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.
Ça donne une bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé.
C'est bon pour la santé si la tomate est bonne. Nous avons deux invités aujourd'hui dans le studio pour parler de la tomate. Pascal Antigny, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes collectionneur de tomates à Quercy-sur-Oise dans l'Aisne, vice-président de l'Association internationale de tomatophilie. Ça existe, oui, c'est vrai. Et vous êtes président également de l'association Cultive ta rue. Vous faisiez un peu la tête quand j'ai dit ce fruit, ça non, ça vous êtes d'accord, c'est un fruit la tomate. Mais quand j'ai dit plutôt rond et plutôt rouge, vous avez levé les yeux et froncé les sourcils. Et effectivement, le carton qui est sur la table à côté de vous démontre que ça n'est pas nécessairement rond et pas nécessairement rouge. On va y revenir. Et puis à côté de vous se trouve Jean-Baptiste Mallet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter. On vous doit une enquête mondiale sur la tomate d'industrie qui a donné lieu à un livre d'abord, L'Empire de l'or rouge, paru chez Fayard en 2017. Et puis à un documentaire réalisé avec Xavier Deleu et qui portait le même titre, L'Empire de l'or rouge. Je disais les tomatiers et les tomatophiles. Est-ce que vous êtes tous les deux plutôt tomatiers, plutôt tomatophiles ou les deux, mon général Jean-Baptiste Mallet?
Je suis un tomato obsessionnel. Je crois qu'on peut raconter beaucoup de choses avec la tomate. Moi, ce qui m'a passionné dans mon enquête, c'est qu'on pouvait raconter le capitalisme avec la tomate, les rapports de production, et ce depuis les débuts du capitalisme industriel avec l'émergence de la Heinz Company, qui est le plus gros acheteur de tomates au monde encore aujourd'hui. Et donc, ce qui m'a intéressé, ça a été effectivement de, à travers une boîte de conserve, de raconter notre civilisation et de raconter la globalisation.
Pascal Antigny qui sort ses tomates, les unes, oh là là, vous avez porté des grosses, des petites, il y en a toutes les formes et toutes les couleurs. Alors, Pascal Antigny, tomatophile, tomatier, les deux?
Les deux, tomatophile, oui, puisque je les collectionne.
Et qu'accessoirement vous en mangez, pas mal?
J'en consomme aussi pas mal, tous les jours, presque, à l'heure de la saison. Et tomatier, oui, puisque je les cultive et je les élève aussi, je suis éleveur de tomates.
Alors, comme quoi tout est possible. Alors, d'où vous vient cette passion, Pascal Antigny, pour la tomate?
Ah, ça a commencé en 1985. Bah, à l'époque, j'avais une petite amie qui travaillait en Russie, qui un jour, nous prenions un café dans mon jardin, elle me dit, mais j'ai vu des tomates en Russie, parce qu'elle regardait les miennes, qui étaient comme ça, rouges et rondes. Elles sont énormes, elles sont extraordinaires. Et donc, 3 mois après, ou 2 mois après, elle m'a rapporté 3 graines qu'elle a passées dans le soutien-gorge.
Oui, c'était encore l'URSS, vous voulez dire?
Tout à ouais. Fait, voilà. J'ai semé au printemps ces 3 graines, 2 ont levé, et le premier fruit faisait 1,282 kg. ça attisait ma curiosité. Et donc j'ai commencé, donc j'ai eu 50, 100, 200, 300 variétés. Et là, j'ai compté, la semaine dernière, 3847.
Mais quand vous êtes éleveur de tomates, Pascal Antigny, vous voulez dire que vous ne les commercialisez pas, vos tomates ?
Non, pas du tout.
Pour quelle raison ?
Alors, éleveur, c'est un terme, ce sont nos amis américains qui emploient ce terme surtout, bien sûr, en anglais. C'est-à-dire qu'on me donne un hybride F1, par exemple.
F1.
F1,
ça veut dire quoi, un hybride F1? C'est le nom de la semence.
Un hybrideur crée hybride deux variétés en pollinisant la mère par le pollen du père. Hein, parce que c'est comme ça, il y a un porteur et un donneur. C'est comme dans... Et donc, ils font un bébé, ce qu'on appelle l'hybride F1. Faire un bébé, c'est facile. L'élever, c'est beaucoup plus dur. Ça demande 5, voire jusqu'à 10 ans. Et c'est ce que je fais.
Mais vous faites des tomates qui sont normalement bonnes pour la cuisine, c'est-à-dire à déguster en elle-même, en salade, en ratatouille, etc. C'est pas des tomates qui visent à devenir des sauces comme dans le film et dans le livre de Jean-Baptiste Mallet que vous faites, Pascal Antigny.
Alors, si j'en fais.
Aussi.
Alors, généralement, il y a des tomates qui sont bonnes, c'est pas écrit dessus, hein, et elles sont très très belles. Je pense notamment à une qui s'appelle Drapée, une autre Pipa crijuline tribuline, qui est magnifique, une tomate larvée de jaune orange, qui est longue. Elle est très fade, elle est bonne à farcir, à faire une sauce. Point final, voilà.
Jean-Baptiste Mallet.
Pour revenir sur la différence entre hybride et variété ancienne, en fait, une variété ancienne, c'est une variété que vous pouvez trouver à l'état sauvage dans la nature. Dès que vous allez la réensemencer, la mettre en terre, vous obtiendrez des graines que vous pourrez ensuite réensemencer et au bout de plusieurs générations, vous allez stabiliser la variété et elle va évoluer en fonction des caractéristiques du sol, des conditions climatiques, de l'eau que vous mettez. Le phénomène d'hétérosis, en fait, de la variété dite hybride F1 permet d'avoir d'un coup une meilleure productivité. Donc la plupart des tomates que vous trouvez dans l'industrie ou que vous trouvez dans votre supermarché sont très souvent des tomates hybrides parce que ça permet d'avoir les mêmes caractéristiques en fait au moment de la récolte, donc de calibrer le produit. Et ce qu'on oublie souvent de préciser, et donc je profite de l'occasion aujourd'hui, c'est que quand on a affaire à des tomates hybrides, eh bien, il y a du travail dans les pays du Sud, notamment en Asie du Sud-Est ou en Inde, et on sait peu, en fait, que derrière beaucoup de variétés hybrides de nos supermarchés, on a du travail manuel pour fabriquer des graines, notamment en Inde, et parfois du travail d'enfant, en fait, pour fabriquer les hybrides.
Mais ça, c'est les dessous du capitalisme sauvage mondialisé, qu'on voit d'ailleurs pas mal dans votre film et
La division internationale du travail qui se cache derrière l'agriculture intensive. Des fois, vous avez des syndicalistes de la FNSEA qui défendent un modèle soi-disant français. En réalité, quand on utilise des hybrides, on met en action, on met en branle toute la division internationale du travail.
Pascal Antigny, après avoir froncé les sourcils quand je parlais du fruit rond et rouge, vous avez dodeliné de la tête, mais d'un air de dire que vous n'étiez pas complètement d'accord avec ce que disait Jean-Baptiste Mallet.
Alors, les hybrides F1, par exemple, j'ai créé une tomate qui a été baptisée à Saint-Jean-de-Beaugard. Une autre sur laquelle j'ai travaillé, je l'ai élevée, pas créée, c'est la Pascal de Picardie. Ce sont les Américains qui ont donné ce nom-là, c'est comme ça.
Hein. Donc il y a une tomate aujourd'hui américaine qui porte votre nom,
tout à fait.
Pascal de Picardie.
Donc, elle a été créée par un hybrideur, ça s'appelle Dean Slater. Et c'est moi qui l'ai élevée, donc qui ai fixé les caractères. Donc lorsque l'on fait un hybride F1, on prend deux fruits. Alors généralement, ou pour son goût, pour sa couleur, on pense obtenir quelque chose. Ça, c'est l'hybride F1. Et bon, les industriels le font très très bien, parce qu'ils répètent par millions et millions d'exemplaires, le même. Ils ont des bases de données, il n'y a pas de problème. Tandis que nous, l'amateur ou l'hybrideur libre, par exemple celle-ci, elle est très bonne, c'est Bella.
Alors celle-ci, vous pouvez nous la décrire.
Bella, c'est une tomate genre...
Elle n'est pas ronde du tout,
poivron, hein, avec un téton, ce qu'on appelle. Donc la robe est larvée d'orange, jaune et rouge, alors que la chair dedans est rouge grenat. Elle est bonne, relativement productive. Elle tient bien en maladie. Par exemple, j'ai voulu l'améliorer avec celle-ci. Donc, on a marié qu'une jaune. Et donc, le résultat...
Elle a la même forme, aussi allongée. Elle est un peu plus jaune.
Elle est plus jaune. Par contre, elle est beaucoup plus juteuse. Ça, c'était pas prévu.
Est-ce que vous pourriez nous parler, Pascal Antigny et Jean-Baptiste Mallet, de l'histoire de la tomate avant de parler de sa naissance? Plutôt même d'ailleurs de la naissance, mais plutôt ancestrale. Elle vient d'où, la tomate? Elle vient de l'Italie, Jean-Baptiste Mallet?
On apprend parfois à l'école que l'agriculture a été découverte en Mésopotamie, ces choses-là. En fait, c'est une histoire assez centrée puisque l'agriculture a été découverte plusieurs fois en Mésopotamie, certes, mais les peuples de Mésoamérique ont eux aussi domestiquer des plantes. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'échange colombien avec la découverte et la colonisation de l'Amérique du Sud par les Espagnols, par les conquistadors, puisque deux mondes vont se rencontrer et il va y avoir cet échange de variétés, cet échange de maladies. Alors, on sait que les Européens ont apporté des maladies, mais les peuples de Mésoamérique nous ont également, en Europe, offert quelques maladies, notamment des MST. Il y a eu beaucoup de débats théologiques parmi les conquistadors quand ils arrivent en Amérique du Sud, puisqu'il n'y a pas de vignes. Donc, pour célébrer la messe, c'est un peu compliqué. Bon, et la tomate fait partie de ces variétés qui ont été domestiquées par les Aztèques, qui étaient des agronomes hors pair, puisqu'on mangeait bien mieux en Amérique du Sud, si on prend l'équivalent du Moyen-Âge, alors qu'en Europe, il y avait souvent des famines, il y avait des rendements agricoles qui étaient très élevés. Et donc, ce sont d'abord les Aztèques qui ont domestiqué cette tomate, et puis la tomate débute son voyage quand elle arrive en Espagne et à Naples, puisque le royaume de Naples, c'est à l'époque la couronne d'Espagne.
Elle a donc beaucoup voyagé, pourtant c'est un fruit fragile, Pascal Antini.
On a rapporté des graines, hein. Donc moi, les premières traces que j'ai trouvées en recherchant, 1524. Et donc, on trouve beaucoup de tomates en Russie, pour une bonne simple raison, c'est que les Génois, qui étaient des grands commerçants, c'était des gens qui commerçaient partout dans le monde, surtout avec les Russes, ils n'étaient pas très regardants. Donc, on envoyait des variétés en Russie qui se sont croisées dans des villages. Il faut bien savoir qu'en Russie, moi, je suis en contact avec des chercheuses, surtout, des agricultrices, ou des semencières russes, parce que il y a beaucoup de femmes en Russie qui le font. Et des villages sont distants, parfois de 500 kilomètres, même plus. Ils voient personne. Donc, une variété est arrivée il y a 200 ans. Elle a muté ou... peu importe. Et maintenant, on a des variétés qu'on découvre chez les Russes, qu'on trouve nulle part ailleurs.
Comme vous en avez une, là, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup, vous en avez apporté, je sais pas, une petite vingtaine, quand même.
Celle-ci, russe.
De variétés. Alors, celle-ci, mais c'est, on est à la radio, quand même, on ne filme pas encore. C'est une petite tomate cerise orange.
Chaka Povpa Medjugla. C'est son nom.
C'est le nom long pour une toute petite tomate cerise.
Goûtez-la.
Je vais la goûter. Très juteuse. Très sucrée. Très douce. Très très bonne.
Ça vient de Russie, c'est ancien, c'est pas industriel.
Maintenant, c'est à toi de couper la tomate. Tu la coupes au quartier. Waouh!
Vous écoutez Les Bonnes Choses sur France Culture et c'est l'heure de la Madeleine, le souvenir gustatif d'une personnalité. Alors, c'est pas toujours un bon souvenir, hein, la Madeleine. On va le voir d'ailleurs avec la personnalité que vous avez rencontrée cette semaine, Stéphanie Villeneuve. C'est une Madeleine à l'envers.
Oui, cette semaine, Caroline, je vous emmène à la rencontre du grand comédien Denis Podalydès qui, à ma grande surprise, m'a révélé non pas son amour pour un plat de son enfance, mais plutôt son dégoût. Et c'est avec l'humour qui le caractérise que je vous laisse découvrir de quoi il s'agit.
C'était des endives, tout ce qu'il y a de plus quelconque, avec du jambon non moins quelconque, qui semblait flotter dans une eau saumâtre, dans un plat qui était un vieux plat en pyrex et qui sortait du four. Ma mère avait travaillé toute la journée au lycée et c'était un plat qu'elle faisait elle-même, à moins qu'il ait été fait par la femme qui nous gardait alors. Et le grand commandement qui était derrière tout ça, c'était: il faut manger de tout. Donc ces endives au jambon, j'ai jamais su si c'était un problème de cuisson, un problème d'endive, un problème de jambon, mais toujours est-il que l'absence de goût confinait au miracle. Enfin, c'est pas tant une absence de goût, parce qu'il y avait quand même ce goût si particulier de la fadeur extrême, quand les plats n'ont absolument aucun intérêt, si ce n'est de devoir nous remplir pour qu'ensuite on aille se coucher.
Ouvre grand ta bouche et croque.
C'est vraiment amer. Ça fait crunch crunch quand je croque avec ma bouche. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Je pense que c'est une endive.
Et ces endives au jambon arrivaient assez régulièrement quand même dans les plats de la semaine. Et donc on guettait le retour des endives au jambon. En même temps, ça suscitait parfois de l'amusement quand on était de bonne humeur. On plaisantait sur les endives au jambon. Il a pu arriver qu'on, non pas qu'on se les envoie à la figure quand même, mais qu'on les triture tellement dans l'assiette qu'il n'en reste qu'une espèce de charpie que, dont personne ne voulait, et qui pouvait d'ailleurs finir aux ordures quand l'injonction parentale de finir les endives au jambon n'était pas suivie d'effet. Ce plat m'est resté en travers de la gorge pendant des années et faisait que aussi la nourriture n'était pas forcément un objet de plaisir ou de désir ou d'envie. Il nous arrivait de très bien manger. Je dis par ailleurs que nous passions une enfance merveilleuse, mais qui était où les moments merveilleux de cette enfance n'étaient pas forcément liés à la nourriture de la semaine. En fin de semaine, ça s'arrangeait nettement. Et là, on mangeait très bien, un peu toujours la même chose aussi, mais ça n'avait pas cette consistance très étrange de l'endive au jambon, où le jambon aussi s'amollissait dans l'eau et dans la texture un peu verdâtre que prenait cette endive. Peut-être que ce n'était pas de très bonnes endives. Toujours est-il évidemment que le mot endive, comme le mot salsifié aussi d'autres légumes de ce type-là, étaient des mots qu'on rattachait à la fadeur, à l'ennui, au dégoût et à l'envie de quitter la table.
Alors la tomate dont nous parlons aujourd'hui dans Les Bonnes Choses, c'est exactement l'inverse de cette endive insipide dont nous parlait à l'instant Denis Podaliès. En tous les cas, normalement, Pascal Antini, elle doit avoir du goût. Pourquoi se fait-il qu'aujourd'hui les tomates n'aient plus de goût ?
Ça tient à l'industrialisation surtout, hein, le fait que... Alors d'une part, il faut mettre le contexte à place, le consommateur est tout de même fautif, hein, puisque le consommateur veut avoir quelque chose pour pas cher. Donc il faut juste quelque chose.
Il faut encore avoir les moyens de s'acheter des bonnes tomates chères.
Sur les marchés, on trouve des produits tout de même abordables. Paris, effectivement, j'ai fait le tour, notamment le marché Raspail. Effectivement, ça atteint des sommets.
Réputés pour être particulièrement chers.
Tout à fait, voilà. Mais effectivement, l'industrie, son travail, c'est de nourrir à bas coût, hein, et d'avoir une marge la plus confortable possible. Hier, je suis allé chercher 2 tomates en hypermarché. Il y avait 12 variétés de tomates. Alors j'aime bien la rose longue, la rouge ronde. En fait, on ne met pas de nom de variété. Déjà, c'est à la limite de l'illégalité, puisqu'on doit nommer les variétés. Tomate ronde, ça veut rien dire. C'est comme les tomates dites cœur de bœuf. En fait, elles ne sont pas cœur de bœuf dans les hypermarchés.
En fait, il y a de la contrefaçon.
C'est une forme de contrefaçon. On induit le consommateur en erreur.
Jean-Baptiste Mallet.
Je ne suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle le consommateur serait responsable, en fait, tout simplement des rapports de production et du fait qu'aujourd'hui, dans une société capitaliste moderne, on puisse laisser tout simplement des industriels produire des choses qui s'appellent tomates mais qui n'en sont plus toujours, qui sont des ersatz de tomates. En réalité, quand on regarde un petit peu l'histoire, on s'aperçoit que les classes populaires, elles, dès qu'elles ont pu avoir dans un jardin ouvrier ou dans un potager, les jardiniers, en fait, ont toujours fait des variétés anciennes. On réensemencé les tomates et on sait reconnaître dans toutes les classes sociales une bonne tomate d'une mauvaise tomate. En revanche, la logique capitaliste a fait en effet que des individus ou des classes sociales se sont appropriés en fait le goût, les moyens de production, et ce n'est pas l'industrialisation qui est en cause. Dans l'industrie, vous pouvez faire du très bon concentré de tomates avec des très bonnes variétés de tomates. En fait, quand on parle d'industrialisation, ça veut dire utiliser des machines pour transformer des tomates. Moi, j'ai visité des usines à Parme dans le nord de l'Italie qui respectait les règles de l'art. En revanche, j'ai visité aussi des conserveries, notamment à Naples, en Chine ou en Californie, où là, c'était la logique la plus productiviste et la plus infâme, la plus cupide qui était à l'œuvre.
Et donc, c'est ce qui vous fait écrire que la tomate est devenue aussi bien un ingrédient central de la diète méditerranéenne que de la malbouffe.
Voilà, elle reflète tout simplement les rapports de force politique à l'œuvre. La tomate, c'est une géopolitique comme une autre, et tout mon propos consiste à dire qu'en fait, en fonction des rapports de force politique, eh bien, on peut influencer ce qu'on a dans l'assiette. Et donc, imaginez demain qu'on puisse produire du bon concentré de tomates avec des bonnes tomates. Ça peut paraître peut-être utopique à certains, mais je crois que c'est pour moi que c'est possible et que c'est souhaitable.
Racontez-nous d'ailleurs, Jean-Baptiste Mallet, puisqu'on était sur les Aztèques, les Russes, comment la Chine, en 20 ans, est arrivée à être le leader mondial de la tomate d'industrie, alors même que les Chinois ne mangent pas de sauce tomate.
En fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'au tout début du XXe siècle, les Italiens ont pris une place importante dans cette industrie, et c'est le peuple italien, la diaspora italienne, qui a mondialisé la consommation de tomates d'industrie, puisque partout où ces immigrés italiens sont allés, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe ou dans les colonies, à chaque fois, ils voulaient consommer ces tomates. Donc ça a créé un marché énorme. Les industries au nord de l'Italie se sont développées. Sous le fascisme italien, la boîte de conserve de tomates est devenue un emblème idéologique très fort, l'emblème de l'autarcie verte, qui était la politique agricole fasciste, qui a beaucoup investi sur le packaging, les emballages et la technologie en fait pour conserver la nourriture. Et le paradoxe de l'histoire, c'est qu'après-guerre, ces investissements qui avaient été faits pour une politique d'autarcie fasciste ont permis aux industriels italiens de mondialiser cette industrie et donc d'exporter des machines partout en Union soviétique, aux États-Unis. À la fin du XXe siècle, les Italiens sont allés organiser un immense transfert de technologie en Chine pour pouvoir produire à bas coût du concentré de tomates, se concentrer ensuite était acheminé, et il l'est encore aujourd'hui, jusqu'à Naples, remis en boîte aux couleurs de l'Italie, puis réexporté sur les marchés africains. Entre-temps, les Chinois ont pris leur envol et maintenant ils concurrencent directement sur les marchés africains.
Et les premiers perdants sont justement les pays de grande consommation de sauce tomate, comme le Ghana, où les producteurs se trouvent tellement appauvris qu'ils sont obligés d'émigrer. On les retrouve immigrés dans les Pouilles, par exemple, donc en Italie, à récolter de la tomate pour 20 euros les 10 heures de travail sous le cagnard.
Oui, là encore, en fait, on voit les conséquences des choix politiques, puisque le Ghana, par le passé, au lendemain de l'indépendance, avait deux usines pour transformer ses tomates. Ensuite, toute l'Afrique de l'Ouest, ou presque, s'est pliée au néolibéralisme. On a ouvert les frontières douanières, on a accepté les importations de produits étrangers, et notamment de concentrés de tomates. Et donc, ça conduit inéluctablement à la destruction d'usines qui transforment des tomates. Ça met au chômage des centaines, voire des milliers de paysans selon les zones. Et à la fin, eh bien, ça les pousse à l'émigration.
Pascal Antigny, vous qui êtes un mousquetaire de la tomate avec votre association Cultive ta rue, est-ce que c'est des choses que vous défendez, le fait de pouvoir manger de la tomate produite localement, qui soit de la vraie tomate et de la bonne ?
Bien sûr, le local, puisque vous parlez du bio, là pour moi déjà le bio doit être local, ça c'est... Et donc la tomate effectivement est un produit en plus, un fruit qui se transporte très difficilement.
Fruit fragile, disons-nous, fragile, voilà. On peut la transporter sous forme de graines, mais quand elle le fruit...
que vous apportez ici, dans 3 jours... C'est fini. Elles vont être complètement...
On va les manger.
Complètement
on va les manger rapidement.
L'industrie, bien sûr, a su génétiquement transformer, bien sûr, en mariant des variétés de plus en plus dures, notamment productives et autres. Et sur les étalages, ou même lorsqu'on fait l'exposition, on voit des gens, des personnes qui nous disent « Nous préférons manger moins, mais mieux ».
À quoi reconnaît-on une bonne tomate, monsieur le collectionneur de 3847 variétés, Pascal Antigny ? Il faut qu'elle soit biscornue, par exemple. Là, celle que vous avez dans les mains, elle est parfaitement ronde, parfaitement rouge. La tomate d'industrie est plus rouge que les autres, finalement.
Le fait de la teneur en lycopène fait, c'est le plus ou moins rouge.
La teneur en
lycopène, c'est une.
C'est un anticancéreux. C'est le pigment.
Voilà, comme l'anthocyanine pour les tomates bleues, ce sont des pigments donc qui apportent le goût et la couleur. Généralement. Bon, ça, c'est une tomate vraiment d'hypermarché.
C'est celle d'hypermarché, donc ronde, belle, dure, et j'ai pas envie de croquer dedans. D'accord.
C'est goût.
C'est voilà. Ça. Bon. Donc, choisissons des tomates biscornues.
Alors, effectivement, à l'hypermarché, les producteurs, le problème de packaging, plus les tomates sont biscornues, comme celle-ci, ça prend de la place dans une caisse. Donc, on fait des tomates qui sont standardisées. Et moi, j'ai fait l'essai déjà dans une épicerie sociale. Je donnais des tomates pour une épicerie sociale et j'ai regardé pendant des heures. Une grosse tomate comme celle-ci, ça c'est
orange
strawberry,
orange,
ça fait 400-500 grammes, ça fait... Les personnes la délaissent. L'industrie a très bien compris, surtout le monde du supermarché. Il y a une chaîne d'hypermarchés que je ne citerai pas, qui envoie son personnel qui fait du frais une journée chez moi en immersion tous les ans. Pour voir ce que c'est que la vraie tomate.
Qu'est-ce que vous préférez comme tomate, vous, Pascal Antigny ?
Moi, j'ai tendance à aimer les tomates légèrement sucrées. Donc les tomates oranges, comme celle-ci.
La grosse.
Ou bigarrées, comme celle-ci. Ou bicolores. Alors, celle-ci, quand elles sont, on les appelle les tomates ananas. Alors, la tomate ananas, ça veut rien dire. C'est comme les tomates cœur de bœuf. Les cœurs de bœuf, c'est une tomate.
Ils sont souvent très farineuses, les cœurs de bœuf aujourd'hui. C'est des fausses.
Oh, c'est dans l'industrie, ça. C'est des tomates d'hypermarché.
Allons chercher, c'est dur, hein. Allons chercher les vraies tomates. Non, est-ce qu'il y a des saisons pour les tomates? Est-ce que c'est vraiment un fruit de l'été?
Pour la France, la saison, bien sûr, c'est un fruit d'été, hein. Quand c'est l'automne chez nous, bien sûr, c'est le printemps en hémisphère sud. Il y a des saisons. J'imagine mal pour moi, une tomate qui vient d'hémisphère sud, en plein hiver chez nous, c'est un non-sens.
Alors, on va terminer en donnant une recette, qui est une recette facilement réalisable. Si je le dis, c'est que même moi, je peux la réaliser, donc je vais la lire. Elle est issue d'un livre qui a apparu aux éditions de l'Épure, La tomate, 10 façons de la préparer. C'est le chef Bruno Verjus qui nous la propose. Salade de tomates et de fraises. Rincez rapidement une quarantaine de tomates cerises et la même quantité de fraises sous un filet d'eau froide. Épongez-les délicatement, ôtez les pédoncules, réservez au frais. Pressez le jus d'un quart de citron dans un bol avec 4 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge, fouettez de façon à obtenir une émulsion. Ajoutez quelques zestes de citron, laissez ainsi infuser une heure à température ambiante. Juste au moment de servir, coupez en deux les tomates et les fraises, répartissez-les équitablement et harmonieusement dans des assiettes creuses. Détaillez quelques grosses feuilles de basilic en fine lanière pour agrémenter la salade. Assaisonnez avec l'huile au citron fouettée, parsemée de quelques grains de fleurs de sel. Et servi. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Baptiste Mallet et Pascal Antigny, d'être venus ce matin. Je rappelle le titre du livre de Jean-Baptiste Mallet, L'Empire de l'or rouge, qui apparaît aux éditions Fayard. Merci beaucoup. C'est l'heure Merci. De la cerise Merci. Sur le gâteau. Pierre Hiverna, c'est l'heure de votre chronique, la cerise sur le gâteau. Et aujourd'hui, vous aviez envie de revenir sur la disparition le 1er juin dernier du philosophe Michel Serres.
Eh bien oui, Caroline, parce qu'on ne le sait pas trop, mais il s'est beaucoup intéressé au sujet de l'alimentation des hommes. Et surtout, c'était quelqu'un qui était peu enclin au « c'était mieux avant ». Alors évidemment, ces dernières années, il s'est posé une question fondamentale sur l'avenir d'une planète qui devra, d'ici une trentaine d'années, nourrir plus de 9 milliards d'individus. D'abord, le philosophe a exprimé son admiration sans fin pour ceux qu'il appelait les pères nourriciers de l'humanité, c'est-à-dire les agriculteurs. Il soulignait notamment, je le cite, que « jadis, agriculteur, ça voulait dire ignorant, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de métier qui ne requiert un aussi grand savoir, un métier qui demande une perception de la vie, de la nourriture, de la reproduction, de la domestication et des compétences techniques comme économiques. » Et le philosophe de résumé, aucun professionnel ne lui est comparable. Mais si Michel Serres avait cet immense talent d'observateur dans le champ de la sociologie, il a développé, pour ce qui concerne l'alimentation des hommes, des bases qui relèvent de l'économie politique. Et pour cela, il est parti d'une première observation. L'ancêtre de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en plein prélude à une mondialisation du commerce fondée sur le libre-échange, avait admis un régime juridique d'exception pour certains produits culturels, en particulier pour les films et pour les trésors nationaux. Beaucoup plus tard, dans les années 90, vous vous souvenez sûrement, Caroline, des quotas audiovisuels, âprement défendus à Bruxelles, notamment par le gouvernement français, et qui étaient finalement fondés à partir de la même question. Peut-on appliquer les mêmes règles de libre circulation des biens et des marchandises à des biens culturels? Et c'est à ce moment-là que s'est largement répandu le concept d'exception culturelle.
Et cette exception culturelle, comme d'ailleurs la notion de bien culturel, s'adapte bien évidemment à la nourriture, puisque la nourriture, comme chacun le sait, fait partie de la culture, non?
Eh bien exactement, Caroline. Et c'est précisément la notion d'exception agricole que Michel Serres et ses proches ont proposé. En gros, pour poursuivre le parallèle, le fait que le monde entier ait accès aux mêmes séries télévisées n'assure en rien la culture de chacun. Et si la protection de la diversité des expressions culturelles est une nécessité et un droit universel, celle de la biodiversité agricole en est également une. Michel Serres exprimait la chose de cette manière. Opposant des obèses à des nouveau-nés mourant de faim, le monde souffre aujourd'hui d'une injustice majeure concernant la nourriture. Il est donc de nécessité vitale, de justice politique et morale, mais aussi d'urgence historique, d'établir une exception agricole. Et bien sûr, on lui a beaucoup posé la question de l'urgence en politique. Et sa première réponse portait sur une action précise, pour lui à la fois fondatrice et réaliste. Sortir les biens agricoles de première nécessité, dont le blé et le riz, du système boursier qui gouverne leur économie.
Merci beaucoup, Pierre Hiverna. Et c'est déjà la fin des bonnes choses qui se poursuivent en réécouté en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aïgoui Chichkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Jacques Hubert, vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Culture et dans un instant, ce sera le journal.